Chapitre 16e. Il y avait environ 3 mois environ que M. de Lucval et Mme d'Infraville s'étaient rencontrés à Paris. Les scènes suivantes se passaient dans une bastide située à 2 lieues environ de la ville d'Hyères, en Provence. Cette bastide, toute petite maison de campagne, de la plus modeste mais de la plus riante apparence, s'élevait au pied d'une colline à 500 pas de la mer. Le jardin, d'un demi-arpent tout au plus, planté de sycomores et de platanes séculaires, était traversé par un cours d'eau rapide, alimenté par les sources de la montagne. Ce ruisseau allait se jeter dans la mer après avoir répandu la fraîcheur dans ce jardinet. La maison blanche à volets verts semblait enfouie au milieu d'un quinconce d'énormes orangers en pleine terre qui l'abritaient contre les rayons brûlants du midi. Une simple haie d'aubépines fleuries clôturait le jardin, où l'on entrait par une petite porte enchâssée entre 2 assises de pierre sèche. Vers les 3 heures de l'après-midi, par un soleil aussi resplendissant que le soleil d'Italie, une calèche de voyage, venant d'Hyères, s'arrêta non loin de la petite bastide sur la pente de la colline. Monsieur de Lucval, pâle, la figure contractée, sortit le premier de la voiture et aida Madame d'Infraville à en descendre. Celle-ci, après avoir un instant jeté les yeux autour d'elle, aperçut, de la hauteur où la voiture venait de s'arrêter, la maisonnette enfuie au milieu des orangers. Valentine, désignant alors d'un geste la bastide à M. de Lucval, lui dit d'une voix légèrement altérée « C'est là ». « En effet, reprit-il avec un soupir contenu, ce doit être là, d'après les renseignements qu'on nous a donnés. Le moment suprême est arrivé. Allez, madame, je vous attends. » Je ne sais s'il y a plus de courage à rester ici, dans l'angoisse de l'incertitude, qu'à vous accompagner. Rappelez-vous, de grâce, votre promesse, monsieur. Laissez-moi seul accomplir cette mission, peut-être bien pénible. Vous pourriez ne pas rester maître de vous, et, malgré l'engagement d'honneur que vous avez pris envers moi... Ah, monsieur, tenez, je n'achève pas, je frémis à cette pensée. Ne craignez rien, madame, reprit monsieur de Lucval d'une voix sourde. « Je n'ai qu'une parole, à moins que... »« Ah, monsieur, vous m'avez juré. »« Soyez tranquille, madame, je n'oublierai pas ce que j'ai juré. »« À la bonne heure, vous me rassurez. »« Allons, monsieur, courage et espoir. » »« Ce jour que nous attendrons depuis 3 mois avec tant d'anxiété est enfin venu. »« Le même mystère enveloppe pour nous la conduite de Michel et de Florence. »« Dans 1 heure, nous saurons tout et tout sera décidé. »« Oui. » reprit M. de Lucval avec accablement. « Oui, tout sera décidé. À bientôt, monsieur. Peut-être ne reviendrai-je pas seul. » M. de Lucval secoua tristement la tête, et Valentine, descendant un sentier, se dirigea vers la porte du jardin de la maisonnette. M. de Lucval, resté seul sur le versant de la colline, se promena d'un air sombre et pensif, jetant parfois les yeux comme malgré lui sur la maisonnette. Soudain, il s'arrêta, tressaillit, devint livide, son regard étincela. Il venait de voir, à quelque distance de la haie dont était entourée la bastide, passer un homme vêtu d'une veste de coutil blanc et coiffé d'un large chapeau de paille. Mais bientôt cet homme disparut parmi quelques rochers bordant la mer et au milieu desquels s'élevaient çà et là d'énormes chaînes de liège. Le premier mouvement de M. de Lucval fut de courir à la voiture, d'y prendre sous une des banquettes une boîte à pistolets de combat soustraite au regard de Madame d'Infraville et de s'élancer à la poursuite de l'homme au chapeau de paille. Au bout de 10 pas, M. de Lucval fit une pause, réfléchit, revint lentement auprès de la calèche et y replaça les armes en se disant « Il sera toujours temps, et quant à mon serment, je le tiendrai. Tant que le désespoir et la rage de la vengeance ne m'emporteront pas au-delà de toutes les limites de la raison et de l'honneur. » Puis M. de Lucval, les yeux fixés sur la maisonnette, descendit le sentier et, semblant lutter contre une puissante tentation, il examina la haie dont le jardin était entouré. Pendant la durée de ces derniers incidents, Valentine, arrivant à la porte extérieure de l'enclos, y avait frappé. Au bout de quelques instants, cette porte s'ouvrit. Une femme de 50 ans environ, très proprement vêtue à la mode provençale, parut sur le seuil. À sa vue, Valentine s'écria sans cacher sa surprise. « C'est vous, Madame Reine ?»« Oui, madame, » reprit la vieille femme avec un accent méridional, et sans paraître d'ailleurs nullement étonnée de la visite de Valentine. toujours votre servante. Donnez-vous la peine d'entrer. » Valentine sembla retenir une question qui lui vint aux lèvres, rougit légèrement, entra dans le jardin, et la porte se referma sur les deux femmes. Madame Reine avait été la nourrice et l'unique servante de Michel Renaud, même au temps de sa splendeur. Madame d'Infreville arriva bientôt sous l'épaisse voûte de verdure formée par le quinconce d'oranger au centre duquel était bâtie la petite maison blanche. « Madame de Luceval est-elle ici ?» demanda Valentine d'une voix un peu altérée. La vieille nourrice s'arrêta court, mit un doigt sur sa bouche, comme pour recommander le silence à Madame d'Infreville. Puis d'un geste, elle lui fit signe de regarder à gauche et resta immobile. Valentine aussi resta immobile. Voici ce qu'elle vit. Deux hamacs caraïbes tressés de joncs aux mille couleurs étaient attachés à peu de distance l'un de l'autre au tronc noueux des orangers. L'un de ces hamacs était vide, dans l'autre reposait Florence. Une sorte de léger vélarium en toile blanche, à raies bleues, tendu au-dessus du hamac, se gonflant comme une voile au souffle du vent de mer qui venait de s'élever, imprimait un doux balancement à ce lit aérien. Florence, les bras et le cou nus, vêtue d'un peignoir blanc, sommeillait dans une attitude ravissante d'abandon, de mollesse et de grâce. Sur son bras droit, à demi replié, sa jolie tête s'appuyait languissante et parfois, la fraîche haleine de la brise, caressant le front de la jeune femme, soulevait quelques boucles de ses cheveux blonds. Son bras gauche pendait nonchalamment en dehors du hamac, et sa main tenait encore le large éventail vert dont elle s'éventait peu d'instants auparavant que le sommeil l'eût surprise. Une de ses jambes charmantes, découverte jusqu'à la naissance d'un petit mollet rebondi, emprisonnée dans les fines mailles d'un bas de fil d'Écosse, était aussi négligemment pendante en dehors du hamac et mettait en évidence un pied de cendrillon chaussé d'une pantoufle de maroquin rouge. Jamais Valentine n'avait vu Florence plus jolie, plus rose et plus fraîche. Ses lèvres purpurines, à demi ouvertes, exhalaient un souffle pur et doux comme celui d'un enfant, et ses traits, dans leur adorable sérénité, exprimaient une quiétude ineffable. À quelques pas de là, on voyait au milieu de l'eau transparente du ruisseau, qu'ombrageaient aussi les orangers, une grande corbeille de joncs à demi submergée, remplie de pastèques verts à chair vermeille, de figues empourprées et de raisins précoces, qui rafraîchissaient dans cette onde presque glacée, où étaient aussi presque noyées des carafes de cristal remplies de limonade au citron, couleur de l'ambre, et du jus de grenade, couleur de rubis. Enfin, sur le gazon-pont, le ruisseau était encadré, et toujours bien à l'ombre, on voyait deux vastes fauteuils, des nattes de paille, des carreaux, des coussins, et autres engins de paresse et de farniente. Puis, à portée des fauteuils, une table où se trouvaient pêle-mêle quelques livres, une pipe turque, des coupes de cristal et, sur un plateau, de petits gâteaux de maïs à la mode du pays. Enfin, pour compléter ce tableau, l'on apercevait à travers deux des percées du quinconce, d'un côté les flots bleus et assoupis de la Méditerranée, de l'autre, les cimes étagées des hautes collines dont les lignes majestueuses se profilaient sur l'azur du ciel. Valentine, frappée du spectacle qu'elle avait sous les yeux, restait malgré elle immobile et charmée. Soudain, la petite main de Florence s'ouvrit machinalement, l'éventail tomba, et en s'échappant des doigts de la dormeuse, l'éveilla.